Voilà, qui nous font entrer maintenant directement dans la série questions-réponses. S'il vous plaît, éteignez vos portables, vous mettez les sous silencieux pour permettre d'échanger tranquillement. Nous allons commencer par Kinshasa avec deux questions. Et une question à ma droite et une question à ma gauche. Question à droite ici. Allez au fond parce que généralement, ceux qui sont au fond n'ont pas la parole. Oui, posez votre question, s'il vous plaît.
Roger Marley et Lukunga pour le journal de Paris et la télévision online bstartv.com. Parmi toutes les autres sur la liste, j'aimerais savoir quelle est cette opération initiée par la MONUSCO qui semble récolter du succès sur le terrain et qui mérite qu'on s'y concentre davantage. Parmi toutes les opérations que vous menez, laquelle récolte du succès et qui mérite qu'on s'y concentre davantage?
Je ne sais pas de quel genre d'opération vous parlez parce que la MONUSCO est sur beaucoup de terrains, beaucoup de secteurs. Est-ce que vous parlez d'opérations militaires? Est-ce que vous parlez des autres actions que nous menons? Que ce soit tout de suite, on vous a parlé un peu de la section de l'enfant, on vous a parlé un peu du genre, etc., etc. Donc, si vous aviez été précis, j'aurais pu vous donner une réponse précise. Mais cela dit, nos actions dans tous les secteurs, dans tout ce que nous faisons comme travail ici, nous faisons des évaluations. Et dans chaque section, chaque fois que nous faisons des évaluations, nous prenons en compte ce que nous avons fait de positif. Et nous prenons aussi en compte ce qui a été mal fait ou insuffisamment fait. Et à partir de là, on essaie de voir comment améliorer notre action. C'est ainsi sur le plan de l'action militaire également. Et si par exemple vous prenez ce que nous faisons dans la lutte contre les ADF par exemple, je prends juste un exemple. Nous intervenons, nous venons en appui au FARDC et il y a des actions militaires que nous menons qui portent des fruits. C'est certaines actions qui sont peut-être insuffisantes, mais nous nous nourrissons de ce que nous faisons comme action qui n'est pas suffisant ou qui a été suffisant pour améliorer et réorganiser et aller de l'avant. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse à cette question. Allons sur la gauche, s'il vous plaît. Bon, vous avez le micro, mais c'était pas vous. Allez-y, d'accord. Vous donnez la question.
Merci, c'est Isaac Ngwenza pour le compte de Congo Opportunities Media. L'IDPS et le rassemblement de l'opposition ont tenu un meeting le samedi passé, pendant lequel, le dimanche, ils soutiennent le dialogue politique tel que prévu dans la résolution 2277. Entre-temps, ils soutiennent que le 19 décembre, qu'il y ait élection ou pas, le mandat du président Joseph Kabila doit s'arrêter. Et hier, le PPRD a tenu un meeting pour soutenir que l'opposition préparerait un coup d'État. Ma question est celle de savoir, avec l'expérience des Nations Unies dans la résolution des conflits, qu'est-ce que vous pourriez proposer à l'État congolais pour éviter qu'après le 19 décembre, qu'il n'y ait pas bain de sang ou que la situation soit calme, quoi. Merci.
Merci pour la question. En fait, la position ou ce que nous faisons est très clair et nous ne cessons de le répéter. Notre position est basée sur la résolution 2277. Vraiment, c'est ça qui nous guide. Et cette résolution 2277 est très claire et préconise le respect de la Constitution. Il préconise également un dialogue, lequel dialogue nous soutenons sous la facilitation de Edem Kodjo, le facilitateur désigné par l'Union africaine. Ça, c'est ce que nous faisons et tous nos efforts sont concentrés là-dessus. Au moment où je suis en train de vous parler, par exemple, le groupe de facilitateurs, de soutien aux facilitateurs, est à pied d'œuvre, et y compris bien sûr la MONUSCO est à pied d'œuvre, pour travailler, échanger, discuter avec les différents partenaires pour voir comment on peut arriver à un consensus, à dialoguer, à relancer le processus du dialogue. C'est ce que nous faisons et c'est notre contribution Et c'est clair, c'est donné par la résolution 2277. Voici ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Et permettez que nous allions aussi à Goma. N'oublions pas les amis de Goma. Goma, vous avez droit à deux questions, s'il vous plaît. Goma, s'il vous plaît.
Oui.
Merci beaucoup, c'est Inga Paterne, AIP. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. Je voulais poser la question en rapport avec ce qui se passe à Beni pour le moment. Les années antérieures, à l'époque du M23, quelques officiers étaient condamnés pour le détournement des rations militaires. Cette année-ci, à Beni, quelques officiers ont été arrêtés pour le détournement des rations militaires et relâchés par force par leur commandant. La MONUSCO continuera-t-elle à supporter les FRDC au moment où les détournements des rations militaires continuent toujours à être présentés sur les lieux? Voici ma question. Merci beaucoup.
Et capitaine Yacine, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Sinon, je peux donner quelques éléments et quitte à vous à compléter. Capitaine, donc,
bien sûr.
Rapport à cette question de ration militaire, disons que nous avons un agrément, nous avons des ententes, nous avons signé un accord avec le gouvernement dans le cadre de nos opérations. Et cet accord ne s'arrête pas seulement à une question de ration. Et c'est un processus global. Il faut le prendre dans son ensemble. Maintenant, s'il arrive que nous remarquions par exemple qu'il y a des problèmes qui surgissent dans la mise en œuvre de ce processus d'entente, de coordination et autres, nous allons tout simplement discuter, dialoguer. Et voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions. Le général, le force commander, d'ailleurs, dans son interview l'autre jour, le disait, quand il se trouve que nous sommes en face de dissensions, de discussions, on n'arrive pas à s'entendre, il faut toujours dialoguer. Et c'est dans ce dialogue, dans cette discussion-là, qu'on arrive à trouver une solution. Donc, pour cette question précise, il est question donc qu'on puisse en discuter, qu'on puisse en débattre avec les autorités, et ensemble, on essaie de trouver un modus vivendi. Voilà. Capitaine, est-ce que vous avez un élément à compléter? Sinon, on passe à la question suivante. À Goma.
Ce que je peux ajouter, qu'on a confiance dans le système judiciaire. Et on doit attendre le résultat de l'investigation pour trancher dans cette affaire. Merci.
La deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Oui, à droite.
Merci beaucoup, c'est Patrick Félix Abel de Hope Channel TV et le journal Le Grand Kivu. Monsieur Théophane, est-ce que vous pensez que le sport peut amener la MONUSCO et ses partenaires sportifs à éradiquer ou encore mettre fin au phénomène de l'enrôlement des enfants dans les groupes armés? La fois passée, vous avez utilisé les léopards avec Méchak et les autres. Cette fois-ci, Bismarck Biyombo s'invite à la fête. En termes clairs, avant que Biyombo soit là, est-ce que nous pouvons savoir les résultats? Donc là, je fais allusion à des chiffres. Combien d'enfants ont été déjà extraits de groupes armés?
Je me rappelle qu'il y a juste une semaine environ, si ma mémoire est bonne, que cette même question a été posée et la réponse avait été qu'il était peut-être trop tôt pour faire une évaluation exhaustive de notre action. Dans ce sens, je vous demanderai donc d'encore patienter quelques temps, le temps qu'on puisse voir les fruits de cette action et on se fera le plaisir de vous les communiquer. Est-ce que nous croyons que le sport peut être vraiment un bon vecteur pour éviter l'enrôlement des enfants soldats? Si nous n'y croyons pas, nous ne l'aurions pas fait. Donc ça veut dire que pour nous sommes convaincus que c'est un vecteur, c'est une possibilité de passer par ce qu'on appelle les ambassadeurs de bonne volonté, des personnes crédibles qui, dont le message peut passer, peut convaincre plus d'un à changer d'attitude et de comportement. Donc ma réponse est oui, nous pensons que le sport, comme d'autres disciplines, peuvent aider à rayer ou à diminuer un peu l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. On revient à Kinshasa, je vais maintenant sur... Il y a un micro là-bas? Ok, donnez le micro. Ok, je reviens à vous s'il vous plaît.
Merci, venant vous dire ça, monsieur de la RTNC. Monsieur Théophane, cette question s'adresse particulièrement à vous. Nous avons appris des sources sûres qu'il y a une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui séjournerait ici en RD Congo, chose à laquelle vous n'avez pas fait allusion. Et notre question est celle de savoir pourquoi faire cette délégation, c'est pourquoi faire encore, sinon pour résoudre quel problème en RDC. Merci.
Et je crois savoir que vous faites allusion à la mission des Nations Unies qui séjourne ici dans le cadre du comité de sanctions. Je peux vous donner, vous dire que, en fait, cette visite, c'est une visite en fait de routine, c'est une visite annuelle. Et avec pour objectif de s'informer, d'essayer d'avoir des éléments d'information sur le processus de sanctions. Vous le savez d'ailleurs, le 23 juin passé, la résolution 2293 a renouvelé les sanctions en matière d'armes pour la RDC. Cette résolution, c'est quoi? Le contenu, c'est beaucoup plus sur le transfert d'armes. C'est pour voir un peu l'état de transfert d'armes et aussi des munitions. Et aussi, bien entendu, l'approvisionnement et toute la chaîne de commandes. Et aussi, voir un peu par rapport ces groupes-là qui soutiennent par exemple les groupes armés en termes de dotation en munitions et d'armement. Il y a aussi un autre aspect dont on ne parle pas, c'est aussi le pillage des ressources naturelles. Et le pillage des ressources naturelles, bien entendu, lié au trafic d'armes, et parce que très souvent les groupes armés exploitent les ressources naturelles pour pouvoir s'approvisionner en armes. Donc ce groupe-là vient annuellement faire un constat, essayer de voir qu'est-ce qui a été fait. C'est un peu comme faire une évaluation, et c'est annuellement qu'ils le font, au bout de la chaîne. S'ils constatent qu'il y a des améliorations, ils le diront. S'ils constatent qu'il y a aussi des choses à revoir, ils vont le faire, ils vont faire des recommandations. Mais pour l'instant, comme vous dites, c'est une mission en cours. Nous n'avons pas, il est trop tôt pour avoir les éléments d'appréciation de cette visite-là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je sais qu'ils ont une série de rencontres de haut niveau avec des autorités et autres, des structures. Mais pour l'instant, en termes d'éléments concrets, je ne peux pas, puisque la visite est en cours, je ne peux pas vous donner plus de détails. Donc, j'avais promis de donner une question ici. Donnez la question à la dame. Il y a une dame qui est à côté. Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Nous avons encore plus de 15 minutes. Allez-y, madame.
RTNC 2 Développement, Laetitia Massela. Ma question est celle de savoir, la MONUSCO dispose-t-elle d'un plan de contingence susceptible d'aider à la tenue effective du dialogue en RDC, en ces moments où toutes les parties ne s'accordent pas encore? Votre réaction, monsieur Porte.
Bon, dit que nous avons un plan de contingence, je reviendrai, quitte à me répéter un petit peu, par rapport à la question de votre prédécesseur, qui parlait un peu de qu'est-ce que nous faisons, quelle est la position de la MONUSCO d'une certaine manière. En fait, j'insisterai sur un point. Vous savez, il y a probablement des divergences. Il y a des divergences. C'est pas qu'il y a probablement. Il y a des divergences. Et nous notons ces divergences. Mais il n'appartient pas à nous, MONUSCO ou Nations Unies, de faire des commentaires pour dire X ou Y, vos commentaires sont ici, cela. Non, cela doit se faire dans un cadre précis. C'est le cadre du dialogue que nous souhaitons tous. et tous les efforts. Si vous voyez, par exemple, je sais que le représentant spécial du secrétaire général, Waman Sidoukou, a rencontré, par exemple, le président Tshisekedi la semaine passée. Il a rencontré d'autres acteurs politiques. Il est en train de rencontrer d'autres leaders, ça peut être des leaders communautaires et autres. Et l'objectif de tout ça, c'est essayer d'amener, d'aplanir un peu les choses pour voir est-ce que on peut arriver à un dialogue, est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter. Et vous savez que demain, il y a une rencontre, vous êtes tous informés que demain, il y a une rencontre de haut niveau du groupe de soutien aux facilitateurs, ça se tiendra demain à l'Union africaine, je crois, et ils vont certainement continuer la discussion pour voir dans quelle mesure on peut avancer. Donc s'il y a un plan, c'est ce plan-là que nous préconisons. J'avais promis une question ici, je prends une question là et puis je vais à Goma. Oui.
Mesdames, vous avez joué le potentiel. Je vais tout droit au but, monsieur le porte-parole Haï de la MONUSCO. L'opposition récuse en des termes clairs Edem Kodjo et propose que l'UIA n'ose pas le remplace par quelqu'un d'autre. Quelle est la position des Nations Unies?
Vous voulez certainement que je répète ce que j'ai dit. Voilà, si vous voulez, je vais être clair et direct avec vous. Nous, la position que nous avons, d'une manière claire, c'est appuyer le facilitateur désigné par l'Union africaine. Ça, c'est notre position. Et tous nos efforts sont concentrés dans la recherche de ce consensus avec tous les acteurs de la RDC et même des acteurs qui sont hors du pays s'ils peuvent contribuer. C'est ça nos efforts et c'est ça notre position. Nous n'avons pas une autre position. Et je vous ai dit tout à l'heure, les dissensions ou les divergences qu'il y a, on les note, ça c'est sûr, on les note, ça existe. On ne peut pas nier que cela existe, ça existe. Mais seulement, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de ces divergences. Il faut se surpasser. C'est ça. Et c'est ça ce que les Nations Unies sont en train de faire en essayant, par les bons offices, d'amener tous les acteurs à se concentrer sur un objectif clair, aller au dialogue, dans le but de préparer le terrain pour qu'on puisse organiser des élections crédibles, transparentes, pour le bonheur des Congolais. Allons à Goma, s'il vous plaît. Deux questions.
Une là et l'autre.
Merci. Je m'appelle Cosmas Mungazi, journaliste et scientifique. Je pose ma question à l'expert de l'UNICEF. Vous avez brossé les avantages de l'allaitement maternel. Je voulais savoir, est-ce que il est interdit de donner les biberons aux enfants et à quelle date il faut donner ces biberons aux enfants? Merci.
C'est bon?
Oui, un peu de silence pour avoir la réponse.
Ok, en rapport avec l'allaitement maternel, l'allaitement maternel comporte effectivement beaucoup de désavantages. Il est interdit de donner des biberons parce que on ne connaît pas il y a des mesures hygiéniques qu'il faut essayer de faire et donc avec les biberons ça pose problème. Et donc il est recommandé aux femmes qui ne donnent pas directement le lait maternel à partir du sein, de presser dans une tasse et de donner avec une cuillère. Là, c'est plus facile.
Ok.
L'âge. Oui, il n'y a pas de l'âge pour donner. Il est recommandé, il y a des pratiques pour que l'enfant puisse bénéficier des bienfaits de lait maternel. Il est recommandé de mettre l'enfant au sein dès sa naissance et de faire l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Et après 6 mois, le lait maternel seul ne suffit pas. Et donc, il faut essayer de compléter avec l'aliment de complément jusqu'à 2 ans et plus.
Voilà, vous voulez certainement connaître le nom de la personne qui s'est adressée à vous. Elle s'appelle Madame Anne Mitelesi, spécialiste nutrition à l'UNICEF. Donc, la deuxième question, s'il vous plaît. Goma. La deuxième question, si Goma n'est pas prêt, on revient à Kinshasa. Goma? Bon, apparemment, ça ne passe pas. Et le micro, s'il vous plaît. Donnez à la dame, s'il vous plaît. Après, on va donner au monsieur.
C'est Elvira Pandou pour le compte de la radio-télévision à Longe. Je voudrais poser une question. C'est toujours par rapport aux élections, mais moi, je ne parle pas des divergences qu'il y a entre les deux partis. Les dimanches derniers, il y a eu lancement d'enrichissement des électeurs, des votes qui doivent se dérouler pendant 11 mois. Donc, comme vous le savez, c'est un délai qui rend pratiquement impossible la tenue d'une élection présidentielle d'ici septembre. Donc, j'aimerais savoir quel est le point de vue de la mission onusienne par rapport à ça. Et puis, une deuxième question, la délégation de l'Union européenne, une petite question, la délégation de l'Union européenne, dans un communiqué, a exhorté les gouvernements congolais ainsi que toutes les autres parties de faire le plus rapidement possible pour que le dialogue ait lieu en RDC. Donc, par rapport au peu de temps qui nous reste, je ne sais pas, pensez-vous que c'est vraiment important qu'il y ait dialogue ou...
Je commence par cette dernière question, parce que par rapport à l'Union européenne, en fait, cette approche de l'Union européenne rejoint aussi notre approche, la communauté internationale, qui encourage le dialogue, qui encourage à ce qu'on s'asseye pour discuter. Une fois qu'on se sera assis et commencé à discuter, c'est à partir de là, certainement, qu'on va pouvoir dégager des pistes. Donc, ne soyons pas pressés, attendons que ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire le groupe de facilitateurs qui est en train de discuter, etc., qu'ils puissent venir avec quelque chose, avec M. Edem Kodjo, et à partir de là, on pourra voir si ce qu'il y a lieu, les pistes qui seront dégagées. Maintenant, pour revenir à la question des élections, vous savez que... je préfère plutôt que vous parliez de l'appui des Nations Unies et non pas seulement de la MONUSCO, parce que c'est ensemble, c'est un One UN que nous allons, que nous apportons notre soutien aux élections. Cela dit, vous savez bien que nous apportons notre soutien au niveau logistique, au niveau technique et aussi au niveau des bons offices. Cela dit, par rapport à ce qui s'est passé dimanche, Florence Marchal, qui est à ma gauche ici, à participer à cette cérémonie. Peut-être Florence Marchal, est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées, nous dire quelques mots par rapport à ce qui s'est passé à Badolité?
Oui, en effet, le représentant spécial adjoint du secrétaire général, le docteur Diallo, était à Badolite ce dimanche pour représenter le représentant spécial du secrétaire général afin d'envoyer un message de soutien au processus d'enrôlement. Donc, comme l'a dit Théo, le rôle des Nations Unies est vraiment bien clairement défini dans la résolution 2277. Il s'agit d'un soutien logistique et technique aux opérations de révision. En fait, nous voulons nous assurer que le processus de révision du fichier électoral se fera de façon crédible et transparente dans l'objectif d'amener les Congolais et les Congolaises à pouvoir, dans quelques temps, effectuer un choix citoyen de voter pour les personnes qui les représenteront.
Voilà. Permettez qu'on n'oublie pas nos amis qui sont à Goma, qui vont poser une question. Ensuite, on prendra une question ici à Kinshasa. Et ce sera la fin de la conférence. Goma, une question, s'il vous plaît.
Oui, merci. C'est Saïd Abbas Majid pour Montagne FM et Amina News. Je reviens avec ma question chez Florence. Vous avez donné le bilan comme quoi l'allaitement était en croissance. Mais nous savons que c'est dans le milieu réquélier, dans des camps de réfugiés, où nous avons un taux des naissances, avec la malnutrition accrue chez ces femmes-là. Comment ça se lie, l'allaitement qui avance et la femme qui a fait la croissance de la malnutrition. Comment cet allaitement-là s'est fait, comme vous nous avez présenté?
Donc, nous avons la chance d'avoir une personne de l'UNICEF à nos côtés. Donc, elle va répondre, tenter de répondre à votre question.
Ok. Même dans les camps des réfugiés, tout comme dans les zones en conflit, donc les femmes qui allaitent, nous devons les protéger, les soutenir pour promouvoir l'allaitement maternel. Raison pour laquelle nous devons agir au niveau des mass médias, donc la télé, la radio, y compris les radios communautaires doivent essayer de faire cette promotion, et également au niveau des services de santé, donc à tout contact, donc lorsque l'enfant est malade, lorsque la femme accouche, au niveau des CPN, consultation préscolaire, donc nous faisons cette promotion pour essayer un peu d'éduquer les mamans, et y compris les personnes qui influencent directement ou indirectement la femme à allaiter, et à connaître que le lait maternel a des avantages, et nous devons également au niveau des communautés, à travers les relais communautaires durant les visites à domicile, donc dans le cas des réfugiés, tout comme dans les zones en conflit, il y a quand même une organisation qui permet quand même à la communauté autochtone environnante d'essayer d'éduquer ces femmes à allaiter. Et donc, l'allaitement, c'est un acte salvatrice et universel, comme on a essayé de dire. C'est un aliment naturel, une ressource naturelle, une alimentation qui ne demande pas un coût, quoi. Donc, voilà.
Ok, je regarde, voilà, au fond, généralement, on oublie ceux qui sont au fond ici. Donnez la parole là-bas.
Voilà, Myriam Iragui du journal Le Phare. Permettez-moi de rebondir sur la question de ma consoeur de tout à l'heure. En fait, c'est à propos de ce que je pourrais noter comme une certaine contradiction entre le temps qui nous reste pour toucher la date du 19 décembre pour la tenue de l'élection présidentielle et le respect... la tenue du dialogue dans les respects des prescrits de la résolution 2277 et puis le respect de la Constitution. Je voudrais savoir comment est-ce que vous dénotez cette contradiction qui, à mon avis, est réellement une contradiction pour les respects de la résolution et puis de la Constitution et puis un dialogue qui va dans le sens du respect de ces lois-là.
Non, à mon avis, je ne fais pas la même lecture que vous, madame. Je ne dirais pas qu'il y a de la contradiction au niveau de la résolution 2277. La résolution 2277 stipule clairement que nous devons appuyer, nous devons faire les bons offices, appuyer le dialogue et dans le cas du respect de la Constitution. Cela dit, un facilitateur a été nommé et a commencé à faire le travail. Et nous disons que nous appuyons ce facilitateur. Maintenant, dans le cadre pratique, comment ce cheminement va se faire? Il faut nécessairement, je le répète, il faut nécessairement qu'on en discute quand un problème se pose. Vous n'avez pas le même point de vue que moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discuter. Et c'est à partir du moment où nous allons échanger que forcément nous allons trouver la solution. Donc, je dis encore et je répète, nous appuyons le processus, nous appuyons le dialogue, et c'est par ce dialogue-là que certaines choses vont se décanter. Quand on discute, quand on échange, on trouve nécessairement la solution au problème qui est posé. Voilà. Et je crois qu'il est. J'avais promis une dernière question. Non, c'est la dernière question. Cela met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.